Ravi de vous retrouver fidèles auditeurs dans cette édition de 17h sur Studio Kalangou. Au micro, je suis Rukayat Abdrahman. Au sommaire, le Niger recule de 2 points dans le classement mondial RSF 2022, une position que déplore le conseil d'administration de la Maison de la Presse dans une déclaration rendue publique ce matin à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Apparition de la maladie de la diphtérie à Ingel, région d'Agadez, le 22 avril. Le bilan est à suivre dans un instant. En partie magazine de ce soir, on parlera de l'insécurité dans le Liptako Gourmand et le rôle des communautés. Mercredi 3 mai 2023, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la Journée mondiale de la liberté de la presse. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, le conseil d'administration de la Maison de la presse du Niger déplore le recul du pays dans le classement de Reporters sans frontières RSF. Le gouvernement a le devoir de respecter ses engagements en matière de soutien aux médias et de la promotion de la liberté de la presse, explique le président du conseil, Ibrahim Harouna. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Le premier constat est que le Niger recule dans le classement RSF. En 2021, nous étions à la 57e place. En 2022, nous sommes passés à la 59e place. Et aujourd'hui, en 2023, nous passons à la 61e place. Cela veut dire que progressivement, nous sommes en train de reculer. Et si vous vous rappelez, une année, le Niger était même à la 29e place sur 480 pays. Si aujourd'hui nous reculons, c'est parce que la situation est en train de se détériorer. Et les raisons de cette détérioration de la situation sont nombreuses. Vous avez un climat sécuritaire très délétère et commun aux pays du Sahel, mais aussi le manque de respect des engagements pris par l'État concernant les médias au Niger. La Maison de la presse s'est battue pour que la convention collective soit signée. On n'a pas senti l'engagement de l'État pour accompagner les médias à ce qu'ils puissent supporter les nouveaux engagements dans le cadre de la convention collective.
La suite de ce journal nous amène à Tillabéri, où les populations des communes de Dessa et Ayoru, qui sont sur les îles de Daya Peul et Daya Alim Zatare, sédentaires, ont évacué ces villages. Environ 380 femmes et enfants sont actuellement à l'hôtel Amenakal d'Ayoru. Des bagarres rangées entre communautés sont à la base de ces mouvements de population. On les écoute, on écoute quelques personnes au micro d'Abdoulaye Amadou.
Vraiment, il prévoit une situation malencontreuse chez nous qui dépasse notre entendement. Car parmi nous, il y a des bonnes personnes et des mal intentionnés. Parce que moi, Abdoulaye Issa, j'ai 1 an et 8 mois ici à Ayoru. Ceux qui sont restés là-bas et ceux qui sont retournés aujourd'hui sont tous ici. Actuellement même, notre village est en feu. Et ce que nous ne comprenons pas, sans distinction aucune, ces gens sont arrivés et se sont mis à tuer et brûler les maisons. À ma connaissance, il y a eu 15 personnes tuées dans les îles de Tchandaji, des jeunes hommes et des vieillards. S'il y en a d'autres, nous ne le savons pas encore.
Ils ont mis le feu dans les maisons. Dès qu'ils ont commencé, nous avons fui pour regagner la rive droite. Certains parmi nous ont continué, d'autres sont restés dans ce village. Mais nous sommes retournés après qu'ils aient fini de mettre le feu dans tout le village et qu'ils sont partis vers un autre village pour le mettre en cendres. Nous avons eu un passage de contournement pour rentrer au village. Depuis ce matin jusqu'à présent, nous n'avons rien eu à manger.
Dans la région d'Agadez, un enseignant nouvellement affecté au CS de Timia a été interpellé le 1er mai par la gendarmerie et conduit à Iférouane, chef-lieu du département. Il est poursuivi après qu'une élève de la classe de première disparue a été retrouvée chez lui, un acte condamné par le syndicat national des enseignants secondaires section d'Agadez. Pour son secrétaire général, cette situation est désagréable. Assoumane Yacouba est au micro de Moussa Maman.
C'est une situation vraiment désagréable, mais c'est arrivé. Le problème qui se pose, c'est que lui, selon sa posture d'enseignant, c'est un instructeur, c'est un éducateur, en tant qu'enseignant, il ne devrait pas être pris dans la situation dans laquelle il a été pris. Il devait se maîtriser, que la fille soit mineure ou majeure, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est sa posture d'enseignant. Nous pouvons que demander à la justice de faire correctement le travail et si ça s'avère, qu'il soit puni conformément à la loi. Selon les informations que nous avons, moment, il est entre les mains des autorités et ses autres camarades qui étaient avec lui et qui avaient essayé de cacher la situation. Et il y en a qui sont même dans le centre de santé parce qu'ils ont été copieusement tabassés par la population. Que l'État prenne ses responsabilités par rapport justement au recrutement des enseignants, parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'il peut enseigner. Or, l'enseignement, c'est vraiment un métier extrêmement difficile qui demande une maîtrise de soi.
Partons à présent à Maradi, où les assises de la chambre criminelle au tribunal de la région se tiennent depuis une semaine. Le nombre important de cas de viol sur mineurs sont préoccupants selon Ibrahim Moutari et les commis d'office au tribunal. Pour lui, l'intensification de la sensibilisation s'impose. Il est au micro de Mohamed Mama.
Depuis un certain temps, à la chambre criminelle, nous constatons un cas très très répandu, des cas de viol aggravé, viol sur mineur de moins de 13 ans. Vraiment, c'est une situation très 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 dangereuse qui se répand. Par exemple, dans 20 dossiers, vous avez 6 à 9 dossiers, c'est ce genre des infractions. Et à l'analphabétisme surtout, parce que c'est dans les coins les plus reculés, quand vous constatez, dans la bourse, les inculpés, les accusés de ces cas de viol, c'est généralement c'est des gens qui n'ont fréquenté ni l'école coranique, ni l'école moderne, qui n'ont aucun contact avec le monde moderne et qui sont dans la brousse. Pour eux, tout acte est permis. C'est après avoir commis ces infractions qu'ils se rendent compte même que c'est une infraction grave. C'est quand ils seront au tribunal, à la barre, qu'ils vont voir que l'acte là qu'ils ont commis, c'est un acte très grave, très dangereux dans la société. Au cours des années, parce que, par exemple, le viol sur mineur de moins de 13 ans, c'est un emprisonnement de 15 à 20 ans. C'est une majeure qui dépasse 13 ans, 10 à 20 ans. Généralement, c'est une peine lourde.
Autre aspect de ce journal, à la faveur de la fête du travail, le commissaire de police d'Arlit a lancé un appel à la population pour une collaboration avec les forces de sécurité afin de combattre le banditisme qui sévit dans la localité. Tassiou Ibrahim est au micro d'Ousmane Oumar.
Nous voudrions que la population comprenne que la sécurité n'incombe pas seulement aux forces de défense et de sécurité. Les FDS ne peuvent pas être partout et au même moment, car non seulement il y a l'insuffisance du personnel, et quel que soit le nombre des FDS, on ne peut pas atteindre le nombre de la population. Par conséquent, c'est la population qui se doit d'être nos yeux et nos oreilles sur ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. C'est cela qu'elle va nous transmettre. Et nous saurons quelles dispositions prendre pour bien assurer la sécurité des personnes. L'appel que je lance, c'est la collaboration. Aider les FDS, cette collaboration peut se faire en deux formes. Si l'on constate un acte malveillant, il faut tout de suite alerter soit les forces de défense et de sécurité ou les autorités administratives ou coutumières, ou même une personne que vous pensez être proche de ces autorités, afin que les mesures idoines soient prises à temps.
Les organisations de la société civile du département de Balayara ont accueilli avec satisfaction la décision du gouvernement de ne pas proroguer l'état d'urgence dans le département. Néanmoins, elles demandent aux autorités locales d'interdire la circulation des motos dans certains endroits la nuit. Agali Issoufou, président des OSC de Balayara, est au micro de Hassan Moumouni.
C'est une chance pour nous que le gouvernement ait pensé à nous libérer la circulation des motos. Nous sommes très contents. Mais maintenant, notre conseil est que les usagers des motos évitent d'emprunter les voies louches pour ne pas éveiller des soupçons. Car si les autorités réinterdisent la circulation des motos à cause de quelques récalcitrants, ce n'est pas bien. Aussi, j'en appelle aux conducteurs de taxi-moto et aux particuliers de respecter les bonnes pratiques citoyennes. Parce que la libération de la circulation des motos n'est pas synonyme d'instauration de l'anarchie. À mon avis, le préfet doit même interdire par arrêter la circulation dans certains coins la nuit, car il y a vraiment des zones à risque la nuit. C'est mon souhait.
Suite à certaines informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d'une épidémie de la méningite à Agadez, le directeur régional de la santé publique d'Agadez a animé ce matin un point de presse. Selon lui, pour le moment, on ne parle pas d'épidémie. Docteur Irobawa Derespé au micro de Moussa Maman.
La région d'Agadez n'est pas en épidémie de la méningite comme prétendent certains sur les réseaux sociaux. Globalement, au niveau de la région, on a 15 cas de méningite et sur les 15 cas, il y a eu 2 décès. Effectivement, les 2 décès, c'est des décès communautaires. Le premier, il a fréquenté une structure de santé dans un CSI. Il avait une fièvre, ils ont fait même intérieur qui a un palu qui est positif. Il est parti à la maison, on l'a dit si ça ne va pas de revenir. Malheureusement, il n'est pas revenu, il est décédé à la maison. Et le deuxième cas, la santé n'a même pas vu le patient, il est décédé à la maison. On appelle qu'on lance aussi au niveau du corps enseignant. Le moindre signe qu'il voit avec les enfants, c'est de ramener directement ces enfants là vers les structures de soins. Parce que plus qu'on prend du temps, plus qu'on réduit la chance de survie à l'enfant. Et la situation, elle est sous maîtrise. Donc vraiment, nous, c'est un appel qu'on lance au niveau de cette population. Ne faites pas l'automédication à la maison. Il faut référer ces patients là vers les structures de santé.
Parlons toujours santé. 8 cas dont 3 décès, c'est le bilan enregistré de la maladie de diphtérie qui s'est déclarée au centre intégré de Tigidan Tessoum, département d'Ingal, le 22 avril 2023. Parmi les victimes, des hommes, des femmes et des enfants, maman Awal, épidémiologiste du district sanitaire d'Ingal, est jointe au téléphone par Anissé Karim.
Il s'agit d'un cas de la diphtérie dans un de notre centre de santé intégré, qui est de Tigidan Tessoum. C'est des cas de la diphtérie dans cette zone-là, où vraiment c'est une population en majorité nomade qui se déplace d'un endroit à l'autre. À l'heure actuelle, nous sommes à 8 ans, 3 décès. L'âge varie entre 6 à 35 ans. 6 ans, c'est des enfants, il y a des dames, et c'est tout le monde. Donc la difficulté ici à Ingal, donc c'est une population très nomade. Donc la population peut quitter d'une zone et venir à Ingal, ou bien une population d'Ingal quitter pour aller dans un. Notre région tout le monde, c'est un peu difficile de maîtriser le mouvement de ces populations-là. Il faut aussi noter que c'est des zones qui sont distantes aussi des parties de formation. Il y a des villages, des hameaux qui font 30 à 40 km sur des parties de santé. La situation est sous contrôle. À date d'aujourd'hui, on n'a pas eu un cas. On a instauré un mécanisme de prise en charge et on va rapprocher aussi la vaccination.
Les prévisions saisonnières relèvent une saison des pluies 2023 globalement moyenne à humide attendue au Sahel. C'est ce qui ressort du forum Presas 2023 sur les grandes tendances de la saison des pluies 2023 pour les zones soudaniennes et sahéliennes tenues à Niamey en avril 2023. La saison des pluies 2023 aura des dates de démarrage précoce à normal, des dates de fin tardive à normal, des séquences sèches moyennes dans la partie ouest et à tendance plus longue dans la partie est et des écoulements globalement excédentaire en moyen dans les principaux bassins fluviaux du Sahel. Bienvenue à tous dans la partie magazine de cette édition. La région de l'Heptacogourmand qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger est secouée par une crise sécuritaire qui fait beaucoup de victimes. Bien que les États se battent pour ramener la paix et la sécurité dans cette région, la situation se dégrade encore. Les communautés doivent avoir un rôle important et doivent se convaincre que c'est à elles de régler surtout le problème. Boubacar Ba, le coordonnateur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. On l'écoute au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
Aujourd'hui, nous voyons les changements climatiques, nous voyons aussi les conflits communautaires, nous voyons l'insécurité grandissante et volatile des États, nous voyons aujourd'hui l'occupation des terres par les groupes armés, nous voyons aussi ces problèmes transfrontaliers. Donc tous ces défis aujourd'hui intègrent la dimension environnementale de résolution des conflits. Donc il faudrait décoder, analyser et élucider les approches et les stratégies pour pouvoir avancer.
À votre niveau, comment vous décrivez la situation dans l'Heptacogourmand ?
Bon, c'est une situation volatile avec des conflits entre groupes armés, d'abord entre Chnim et État islamique. Vous voyez aujourd'hui de Tillabéri en passant par Ansongo, la région de Gao, jusqu'à aujourd'hui le Sahel burkinabé, les zones sont infestées par ces groupes. La deuxième chose, c'est qu'il y a un conflit entre les groupes eux-mêmes, d'un point de vue idéologique, entre État islamique et Chnim. De l'autre côté, il y a des conflits communautaires complexes, il y a des mouvements armés, il y a des groupes djihadistes. Donc ça, c'est vraiment une situation de conflictualité, de déflagration des conflits. Il va falloir dépasser ça pour trouver des solutions alternatives basées sur la gouvernance environnementale et la résolution stratégique des conflits.
Quel rôle doivent jouer les communautés pour trouver une solution ?
Et les communautés sont au cœur du dispositif. On ne peut rien faire sans les communautés. Qu'on veuille ou pas, c'est à partir du bas, c'est-à-dire le niveau stratégique communautaire avec d'abord les populations locales, les légitimités, et remonter au niveau national et sous-régional. C'est cette adéquation qui permettra d'avancer. Sinon, toute autre approche serait vraiment une approche aventureuse pour nos États. Il va falloir quand même qu'on parte aux communautés, mais que les communautés aussi remontent avec les acteurs institutionnels, et la société civile et puis les partenaires techniques et financiers.
Ce conflit a été militarisé dès au départ. Pensez-vous qu'on peut trouver une solution ?
C'est tout pour cette édition d'information.